Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, 13h ici à Paris. Alors du journal, bonjour Mathis Limano.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Avec à la une, un mois de contestation en Iran.
Le 28 décembre débutait une grève des commerçants au Grand Bazar de Téhéran, un mouvement qui s'est muté en révolte à travers tout le pays. Sous la pression, le régime avait alors coupé Internet avant de se livrer à une répression sans précédent. Plus de 25 000 morts d'après des ONG, 40 000 arrestations. Une révolte étouffée. À l'heure actuelle, les États-Unis maintiennent eux la pression sur Téhéran et déploient une importante armada dans le Golfe Persique.
Jour de funérailles nationales en Israël.
Celle de Ran Gvili, dernier otage ramené de la bande de Gaza. On appellera Frédéric Misselin qui se trouve sur les lieux de la cérémonie. À suivre également l'opération déminage de Donald Trump après la mort d'un deuxième manifestant à Minneapolis. L'un des proches du président américain, l'un des proches conseillers, évoque pour la première fois des manquements de la part des policiers fédéraux au Royaume-Uni. Sarah Mulally prend ses fonctions aujourd'hui. Première femme à prendre le titre de la chef spirituelle de l'Église anglicane. Et puis en fin d'édition, on revient avec Elisabeth Le Quiré sur les nominations des Césars.
C'était il y a un mois, tout juste le début d'une révolte dans les allées du Grand Bazar de Téhéran.
Avec cette grève des commerçants, d'abord pour dénoncer la crise et les fluctuations monétaires en Iran. Une contestation qui s'est vite étendue à tout le pays. On revient dessus avec Oriane Verdier.
Dès le 29 décembre, la mobilisation s'étend rapidement à d'autres villes et aux universités. Alors que les forces de sécurité répriment, le président Massoud Pezeshkian lui tente d'apaiser en annonçant des mesures économiques. Une semaine plus tard, et alors que le mouvement continue, les gardiens de la révolution ouvrent le feu sur un rassemblement à Malekshah dans l'ouest du pays. Le lendemain, ils attaquent l'hôpital d'Ilam où ont été transférés les blessés. Les manifestations ne sont pas aussi massives que lors du mouvement Femmes Vie Liberté. La violente répression d'alors en a dissuadé beaucoup, nous explique une Iranienne. Le 6 janvier dernier.
Je n'ai pas eu le courage de sortir et rejoindre les manifestants. Comme vous savez, la République islamique a la réputation de réprimer violemment les manifestations.
Deux jours plus tard, le 8 janvier, le fils du Shah en exil, Reza Pahlavi, appelle à la mobilisation. Le pays est soudain coupé de tout moyen de communication. Caché des yeux du monde, les rues iraniennes sont inondées de manifestants pendant deux jours. C'est là que le massacre commence. Pendant deux semaines, nous ne recevons que des bribes d'informations laissant présager l'horreur. Et puis jeudi dernier, alors qu'un semblant de connexion Internet revient, nous recevons la confirmation. L'air sent la mort ici, raconte l'un de nos contacts. Ils ont massacré leur propre peuple, affirme un autre. Ils ont tiré pour tuer. Certaines familles n'ont pas pu récupérer les corps, témoigne cette personne. Des vidéos montrent des cadavres alignés, entassés.
Oriane Verdier.
Et on annonce un retour d'Internet là, aujourd'hui, en Iran. Mais donc, il est très difficile d'avoir accès à des informations sur la répression. Le nombre exact de victimes est très compliqué à vérifier.
Ah oui, au-delà des blessés et arrestations, l'ONG Iran Human Rights craint aujourd'hui que le bilan total de cette répression soit de 25 000 morts. Par ailleurs, l'ombre d'une intervention militaire américaine plane toujours sur l'Iran. Une nouvelle armada est en route, a annoncé Donald Trump. Elle devrait rejoindre celle déjà stationnée dans le Golfe Persique. Le porte-avions Abraham Lincoln en fait partie, accompagné de nombreux navires de guerre. Alors, à quoi peuvent servir ces bâtiments déployés au large de l'Iran? Hypothèse avec Clément Terme, spécialiste du pays.
Le simple fait de déployer les forces militaires, par exemple, ça a un effet sur l'économie de l'Iran. La monnaie nationale, le rial, chute face au dollar. Et donc, la pression militaire entraîne une dégradation des conditions économiques qui elles-mêmes peuvent provoquer à nouveau des manifestations en Iran. Il y a aussi la possibilité d'un blocus maritime, d'empêcher par exemple les exportations de pétrole de l'Iran vers la Chine, le premier acheteur de pétrole iranien, plus de 80% du pétrole exporté par la République islamique. Et donc il y a aussi des possibilités d'intervention ciblée visant par exemple le guide suprême ou des cibles militaires des gardiens de la Révolution, du Basij, de la police, du ministère des Renseignements ou de la télévision d'État, parce que ce sont des cibles qui sont en lien avec la répression du mouvement Et le président Trump a fait un lien entre le niveau de répression et la possibilité d'utiliser la force pour arrêter la répression qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, selon les sources médicales en Iran.
À des propos recueillis par Nicolas Falaise, selon Donald Trump, les dirigeants iraniens sont demandeurs d'un accord avec les États-Unis. Des propos démentis par Téhéran qui appelle Washington à cesser toute menace. Le gouvernement français réfléchirait, lui, à placer les gardiens de la révolution sur sa liste des organisations terroristes, d'après la porte-parole du gouvernement.
Ce mercredi est jour de funérailles nationales en Israël.
Ah oui, celle de Ran Gvili, dernier otage ramené de la bande de Gaza. Frédéric Misselin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans le sud d'Israël pour suivre ces funérailles qui ressemblent à un hommage national.
Oui, du recueillement, des pleurs ce matin dans le stade de la petite ville de Métar, dans le sud d'Israël. 2000 personnes sont réunies pour rendre hommage à Ran Gvili, le dernier otage du Hamas qui avait été enlevé le 7 octobre 2023 et dont la dépouille est revenue en Israël lundi. Des personnalités politiques sont venues assister aux obsèques devant le cercueil recouvert du drapeau israélien. Il y a le premier ministre Benjamin Netanyahou, mais aussi le président Herzog et le ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir. Tous écoutent les loges funèbres et en ce moment même, Benjamin Netanyahou est en train de parler. Dans la foule, beaucoup d'uniformes bleus. Ran Gvili était policier, un des leurs, mais il y a aussi la famille. Le père du défunt porte un t-shirt sur lequel s'affiche le portrait de son fils. Et qui est, dit-il, l'enfant de tous, l'enfant du pays. Tout le monde connaît son histoire. Les amis comme Shir parlent d'un héros et précisent qu'il a été le premier à partir pour repousser l'attaque du Hamas. Le dernier à revenir au bout de 2 ans. Les Israéliens s'apprêtent à retirer les petits rubans jaunes qu'ils portent. Le signe qu'il voulait dire, il faut ramener tous les otages à la maison.
Frédéric Misselin, envoyé spécial, envoyé permanente en Israël. Merci à vous.
Et après le retour donc de ce dernier otage du Hamas, on s'interrogera sur la prochaine phase du plan de paix, les incertitudes aussi qui pèsent sur ce plan. Après les dernières déclarations du Premier ministre israélien, hier, on sera avec Laetitia Bucaille, professeure de sociologie politique à l'INALCO, dans une dizaine de minutes. En Ukraine, plusieurs régions sous le feu russe la nuit dernière.
Un mort dans la région de Dnipro Petrovsk, des explosions ont été rapportées à Kiev, tandis que 2 autres personnes ont perdu la vie dans une ville de la banlieue sud de la capitale. La veille, c'est Odessa, dans le sud du pays, qui avait été violemment prise pour cible par des dizaines de drones russes. 3 personnes ont été tuées, 30 d'autres blessées. Aux États-Unis, après avoir écarté le très contesté Greg Bovino de l'opération anti-migrants à Minneapolis, l'administration Trump poursuit son opération déminage. Le conseiller de Donald Trump à la sécurité intérieure, Stephen Miller, a reconnu hier de possibles manquements au protocole de la part des policiers fédéraux lors de la mort d'Alex Pretty. C'était samedi dernier, François-Damien Bourgerie.
Oui, c'est une remise en question timide, mais tout de même notable. Après avoir traité Alex Pretty d'assassin en puissance, c'était samedi dernier, juste après que cet infirmier a été tué par des agents de la police aux frontières, Stephen Miller a changé de ton. Nous examinons les raisons pour lesquelles l'équipe de la CBP pourrait ne pas avoir suivi le protocole. Voilà ce qu'a déclaré à différents médias le très radical conseiller de Donald Trump à la sécurité intérieure. Stephen Miller faisait référence à des directives générales plutôt qu'à la mort d'Alex Pretty, a rapidement précisé la Maison-Blanche. Il n'empêche, cette déclaration ressemble beaucoup à une nouvelle tentative de calmer les critiques sur les méthodes employées par les agents fédéraux, des critiques qui émanent aussi désormais du camp républicain. Après avoir remplacé Greg Bovino par son conseiller Tom Omar, Donald Trump a de son côté annoncé sur Fox News une légère désescalade à Minneapolis, mais la tension reste vive dans la capitale du Minnesota. Hier soir, la députée démocrate d'origine somalienne Ilhan Omar a été agressée lors d'une réunion publique. Un homme armé d'une seringue s'est précipité vers elle avant d'être maîtrisé.
Les précisions de François-Damien Bourgerie.
Et face à la politique du président américain, l'OTAN doit devenir plus européenne pour maintenir sa force.
Déclaration ce matin de la chef de la diplomatie de l'UE, Kaya Kallas, alors qu'une réunion est en cours à l'Elysée. Réunion entre Emmanuel Macron, la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, et le chef du gouvernement groenlandais, Jens Frederik Nielsen, vient remercier le chef de l'État pour son implication dans la défense du Groenland face aux menaces d'annexion de Donald Trump. Le président américain avait finalement reculé, comme sur les droits de douane qu'il menaçait d'imposer à plusieurs pays européens. Parmi ces pays, la Grande-Bretagne, le Premier ministre britannique est arrivé à Pékin, une première depuis 2018. Le programme officiel ne débutera que demain avec des rencontres prévues avec plusieurs hauts responsables chinois. Keir Starmer entend défendre un partenariat pragmatique après des années de relations glaciales entre la Chine et le Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni, où plus d'un an après la démission de Justin Welby, la nouvelle archevêque de Canterbury prend ses fonctions aujourd'hui.
C'est le titre de la chef spirituelle de l'église anglicane qui compte une centaine de millions de fidèles dans le monde, en majorité dans les pays anglophones. Cette nouvelle dirigeante, c'est Sarah Mullally, jusqu'ici évêque de Londres et la première femme à ce poste. Emeline Vin, vous êtes en direct de la cathédrale Saint-Paul et vous assistez à la confirmation de son élection.
Oui, moi, Sarah Elisabeth Mullally, je consens à mon élection comme archevêque de Canterbury. C'est par ces mots qu'a débuté la cérémonie en présence des évêques d'Angleterre, de dizaines d'enfants de cœur et de centaines de pasteurs, croyants ou juste des curieux venus assister à la messe. Alors ceux qui sont venus se montrent émus.
Emeline Vin, la connaissance. Et la connexion est compliquée avec Emeline Vin, correspondante au Royaume-Uni. On va essayer de vous retrouver juste après Emeline. RFI, les 13h10 à Paris. Cet après-midi, le Sénat vote sur la très controversée loi sur la fin de vie, un texte qui prévoit d'autoriser l'aide à mourir via le suicide assisté ou l'euthanasie. Mais cette proposition de loi a été largement vidée de sa substance par les sénateurs et pose la question de l'avenir de ce dossier très sensible. Aurélien Devernois.
Oui, presque 50 ans que le sujet est arrivé dans le débat public. Il faudra sans doute encore patienter avant que l'aide à mourir ne devienne un droit en France. C'est en effet un texte remanié qui exclut le suicide assisté et l'euthanasie que pourraient adopter les sénateurs cet après-midi, se contentant de simplement réaffirmer le droit à une fin de vie digne. Les députés risquent donc de devoir repartir de la case départ dans un mois lorsque la proposition de loi reviendra à l'Assemblée nationale du côté des partisans de l'aide à mourir. Comme la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, on estime qu'il s'agit d'un simple ralentissement, mais à gauche, on s'inquiète tout de même d'un examen prévu en pleine campagne des élections municipales. Attention au risque de démobilisation, alerte en conseiller parlementaire. Le gouvernement se veut lui aussi prudent. Le chemin législatif est loin d'être terminé, estime un ministre. Et la pression pourrait monter. Des mobilisations anti-euthanasie ont en effet eu lieu ces dernières semaines. Il faudra aussi qu'Emmanuel Macron arrête de tergiverser, s'agace un cadre socialiste. Le chef de l'État ayant ouvert ce dossier de la fin de vie sans le refermer depuis 2017. Mais à l'Élysée, on assure que le président reste mobilisé et que la loi devrait être promulguée avant la fin de l'année.
Merci Aurélien Devernois, service politique de RFI.
Toujours en France, 4 ans de prison dont 18 mois ferme pour un ancien sénateur.
Joël Guerriau, reconnu coupable hier par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir drogué la députée Sandrine Josseau dans le but de la violer, des faits qui remontent à novembre 2023. Cette affaire avait donné un coup de projecteur sur la soumission chimique un an avant le procès dit des viols de Mazan. Mais ce jugement n'en est pas l'épilogue. Il y aura un deuxième procès puisque l'avocat de Joël Guerriau a immédiatement annoncé faire appel. En Corée du Sud, l'ex-première dame sud-coréenne condamnée à 1 an et 8 mois de prison par un tribunal de Séoul. Kim Kyon-hee a été reconnue coupable de corruption. Son mari, l'ex-président Yoon Suk-yeol, est lui déjà en prison. Il est jugé dans plusieurs procès depuis sa destitution après avoir tenté d'imposer la loi martiale. C'était fin 2024. Amazon annonce la suppression de 16 000 postes dans le monde. Le géant du commerce en ligne en a informé ses employés sans livrer plus de détails. Il précise que de nouveaux postes seront offerts à certains salariés lorsque c'est possible.
Et puis après une année 2025 marquée par l'absence de gros succès pour le cinéma français, l'Académie des Césars a révélé tout à l'heure la liste des nommés pour sa 51e cérémonie.
Une cérémonie qui sera présidée un jour plus tôt que prévu, le 26 février, par Camille Cotin. Elisabeth Lequéré, bonjour.
Bonjour.
Service culture de RFI. Alors qui pour succéder à Emilia Pérez, le grand vainqueur de la cérémonie l'an dernier.
Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague.
Tout ce dont on a besoin pour faire un film,
c'est une fille.
Eh bien, c'est peut-être un Américain qui, cette année, va rafler la mise. Richard Linklater et son film Nouvelle Vague. On est en train d'entendre la bande-annonce. Évocation du tournage mythique d'About de souffle de Godard, trône tout en haut du podium avec 10 nominations. Juste derrière, 3 films récoltent 8 nominations chacun. L'attachement de Karine Tardieu, succès surprise avec 800 000 spectateurs et une Valéria Bruni-Tedeschi à contre-emploi. Dossier 137 de Dominique Moll sur le travail d'une enquêtrice de l'IGPN sur fond de bavure policière et L'inconnu de la Grande Arche sur les coulisses romanesques de la naissance du célèbre monument parisien sous Mitterrand.
Et avec 7 nominations, Elisabeth, la petite dernière d'Afsia Herzi s'impose également.
Oui, alors la jeune Nadia Meliti, récompensée à Cannes, incarne une musulmane en proie au doute face à son désir pour les femmes. Et si le suspense va rester entier jusqu'au 26 février, en revanche, on connaît déjà le nom d'un récipiendaire. C'est le comédien américain Jim Carrey qui recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
Elisabeth Le Quéré, merci à vous.
Il est midi et quart en temps universel et on va passer tout de suite à l'actualité sportive. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Avec du foot, bien sûr, pour commencer, dénouement ce soir de la phase de poule de la Ligue des Champions.
I think you're so beautiful. I just can't help myself.
de escuela, músico de calle, cualquier receta pa' que tú la baile, nota que sube, nota que baja, te dijo que el músico no trabaja, siente la tranza que llega a tu panza, el ritmo te nace y nunca te cansa, música lleva la paz, música lleva la paz. Mestiza, tambores de bata, tu corazón que late con la música barata. Música combate, música pirata, todo se vale si mueve tu pata. Siente la tranza que llega a tu panza, el ritmo te nace y nunca te cansa. Música lleva la paz. Música lleva la paz.
propos derrière. La tête dans les nuages, mais on garde les pieds sur terre. Et le temps d'un morceau, c'est l'or des secours qu'on enterre. S'ils volent la bonne humeur, tout ce qu'il nous reste, on le perd. Et bon, nous vivons bien dans nos skanking shoes. C'est comme un vieux pote chaque fois que l'on retrouve Miss Ada. Profitons du temps qu'il reste et qu'on savoure chaque instant qui passe, tout ce qu'on éprouve. Scuba des babs, sourire, c'est résister. Et l'optimisme, une arme qu'on ne défait. Again and again, scuba des babs, survivre, c'est tenir le coup face aux faits. Scuba des babs, sourire, c'est résister. Motivé comme personne, délaisse tout mon stress. J'avance profitant chaque jour d'être la ronde, tout ce que la vie me donne. Comme dans tous les récits, la vie est un défi. Si wow, motivé comme personne, un sourire, un geste, parfois change les choses quand tout autour rien ne va. Positive au maximum, une journée réussie annonce des lendemains plus beaux. Je vois le pas, je sais que l'homme reste toujours number one. Je vois le pas, je sais que l'homme.
C'est sur le
99.1.
Le mix.
Vous êtes une femme de 25 à 65 ans ? Ce message vous concerne. Chaque année, plus de 3000 cancers du col de l'utérus sont diagnostiqués et provoquent le décès d'environ 800 femmes. Pourtant, grâce au dépistage régulier, 90% de ces cancers pourraient être évités. Entre 25 et 65 ans, faites-vous dépister. Le test permet de détecter la maladie à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison.
Parlez-en à votre médecin ou à une sage-femme. Informez-vous sur jefaismondépistage.cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer.
You're listening HDR.
Le mix des plus durs.
C'est toujours Alexandre qui voulez-vous que ce soit.
HDR. Le mix des cultures.
HDR The Mix 99.1.
Si, si, 6-10, c'est Crumb, c'est qu'est le Queen's Pre-Easy. Je vérifie les petites billes de Hustler qui imitent ma technique dealer.
HDR 99.1.
Bitch,
you better get off, bitch. I see you tryna come, tryna get on, bitch. You go on trip, slip, fall in, and lick on dick. And be the same nigga about to come and lick on this. All up.
Come on now, shit.
HDR le mix.
Sometimes it be a stand here. Say certain girl are real animal here. But you better steer and share your comments with yourself.
99.1.
HDR, 24h sur 24, le mix tout qu'il tire.
RadioHDR.fr.
Qu'y a-t-il pour votre cher vie ?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux, de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux.
À quelle heure dites-vous ?
De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM.
HDR.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Ça y est, je capte un signal.
Écoutez.
Et tous les dimanches, dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du solénoïde.
Qu'est-ce qu'il dit là ? De quoi il parle ?
Ah ben ça, je sais pas.
En l'espace de 60 minutes, solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites.
Qu'est-ce que tu vois ?
Solénoïde, tous les dimanches, dès 22h.
3h. On rediff le lundi à 2h.
DJ Aratek.
Micro-session par DJ Aratek.